quand l'Aude se met à table, c'est sur Radio Marseillette avec les auberges rurales et gourmandes en pays d'Aude.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Nicole.
Bonjour Mélina. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Mélina. Bonjour Nicole.
Bon, Jean-Paul, tu es investi d'une mission aujourd'hui parce que d'une, c'est la dernière de l'année.
Tout à fait.
Et pas des moindres parce que tu es tout seul.
Voilà. Comme un grand,
mais je pense que ça ne te pose pas forcément.
Ça ne me gêne pas. Surtout en tête à tête avec Nicole et Mélina, ça me va très bien.
Voilà. Et donc pour la dernière, on va d'abord passer à table. Comme c'était forcément prévu depuis le départ, avec une chouette petite recette, moi, qui me parle. On en discutait justement avant de prendre l'antenne. On parlait un petit peu d'aujourd'hui cette cuisine dont on entend parler en des termes artistiques. On disait qu'on avait souvent du mal à lire les cartes aujourd'hui parce qu'on comprenait pas forcément grand-chose. Et nous, on a décidé de rester local. C'est le but de l'émission et le but de l'association que tu mènes, Jean-Paul. Et c'est pour ça qu'on aime bien présenter les recettes à Radio Marseillette. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, j'ai préparé deux recettes. Wow, une, parce que c'est Noël, c'est la fête, et que pour la fête, tout le monde doit faire la fête en ce jour de Noël. Donc, il y aura deux recettes. Une au chapon du pays Qatar, au marron et au cèpe. Et puis, pour ceux qui veulent toujours faire la fête, mais rester modeste, ce sera une pintade, donc la pintade au muscat de Cascastel.
Bon, encore une fois, très, très, très local. Qu'est-ce que... Alors, à vos crayons, à vos stylos, à vos papiers, éventuellement, sur Internet, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette recette en téléchargement sur le site après l'émission. Donc, allez-y, prenez stylo, papier, tout ce que vous voulez pour noter les ingrédients pour cette pintade au muscat de Cascastel. Donc, on a dit une grosse pintade ou deux petites. Alors, quand on dit grosse, on pourrait dire à peu près en poids.
Ben, ça dépend les pintades. Il y a des pintades qui font 2 kilos, 2 kilos et demi. Ou alors, il y a des pintades qui sont plus petites. Et alors, on dit un quart de pintade par personne.
Quart de pintade par personne, bon, voilà. D'accord. Un litre de muscat de Cascastel, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait lui attribuer comme qualité un peu spéciale à ce muscat de Cascastel?
Eh bien, le muscat de Cascastel est un vin, donc, comme le Rivesaltes. Hein. Et c'est un vin doux naturel, mais qui est élaboré dans l'Aude. C'est le seul que nous avons dans l'Aude comme vin doux naturel, puisque le muscat de Saint-Jean, lui, c'est dans le Minervois, mais dans l'Hérault.
Voilà. Oui.
Donc, et nous avons également aussi le muscat de Grissan, mais qui est un vin de pays, qui n'est pas un vin doux naturel. Voilà. Alors, donc on prend un vin doux naturel, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un vin qui titre dans les 18 degrés, qui ait de l'arôme, que le sucre résiduel soit assez important. Donc voilà, on va prendre un muscat, vin doux naturel de Cascastel.
La recette en elle-même est assez, je vais partir sur le doux, pour ne pas dire sucré, puisqu'on a non seulement le muscat de Cascastel, qui est donc un vin doux naturel et assez sucré, plus les carottes. Qui sont assez douces.
Voilà.
Donc pas quelque chose qui va surprendre le palais, plutôt au contraire l'adoucir, parce que...
Voilà.
On est sur le sucré. Donc, un litre de muscat de Cascastel, deux oignons. On peut dire qu'on pourra parler de l'oignon de Citou.
Voilà, tout à fait. L'oignon de Citou, qui encore, nous en avons un peu. Bon, c'est vrai que l'oignon de Citou, il va falloir qu'ils augmentent leur volume, parce que à la vitesse où il est consommé, il faut se le faire réserver. Donc, ce que je disais, moi, à Jojo Mestre, un des fondateurs de Sud Primeur, là, qui est un distributeur de la marque Bécatar, dans ta chambre froide, garde-moi toujours au moins 50 kilos d'oignons que je puisse en prendre. Il me dit, maniaque, bientôt tu n'en auras plus.
Donc, pensez-y, la prochaine fois, réservez vos oignons de Citou. Ben oui, ça va devenir comme ça, et tant mieux, puisque c'est le revers de la médaille, mais la bonne, hein, puisque bon, si on doit le réserver, c'est qu'il a du succès.
Voilà.
Merci. On ajoute à ça 500 grammes de carottes. Bon, là, je ne pense pas qu'on ait...
Non, de la carotte du jardin, normale que l'on râpe et qu'on coupe en rondelles. Une carotte quand même pas trop jeune, parce qu'elle aurait tendance à fondre.
Hein, faut laisser oui, parce que on est sur un plat mijoté, voilà. Donc il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de trop jeune. 25 centilitres de coulis de tomates. Bon, ça, on a tout... Enfin, qu'on a en principe.
Sinon, on le fait sur place, on le fait au moment, quoi.
On peut le faire au moment, exactement. De la farine pour faire la sauce, du sel et du poivre. Voilà. C'est parti, chef, je vous écoute.
Voilà, mais tout simplement, après, il faut peut-être passer un petit coup de chalumeau sur la pintade ou la passer sur le gaz pour brûler les résiduelles, voilà, qui peut rester. Puis, nous découpons la pintade en morceaux. Pas de trop gros morceaux, mais pas non plus de trop petits morceaux. Et donc, on considère qu'il faut un quart de pintade par personne, petite pintade, ou alors une grosse pintade où on sortira pour 6 personnes. Donc, on coupe la pintade en morceaux, on fait revenir la viande dans de l'huile d'olive. J'ai oublié de mettre dans le listing de la recette qu'il fallait à peu près un quart de litre d'huile d'olive, première pression, de l'olibo, si possible, à bise, qui a ses qualités.
Donc, c'est l'olive la fête, en somme, c'est la fête de l'olive, enfin, voilà. C'est le dernier jour, non, c'est jusqu'au 31 décembre.
Jusqu'au 31, voilà.
Et donc, ça bat son plein.
Donc, on fait revenir la viande dans l'huile d'olive, mais faire revenir veut dire bien faire revenir. Il faut que les morceaux soient bien dorés. On les réserve. On ajoute des oignons émincés et les carottes coupées en rondelles. Et on les fait dorer également, que l'oignon soit translucide, hein, qu'il soit bien doré. On verse le coulis de tomate et on laisse un peu réduire. On saupoudre d'une bonne cuillerée à soupe de farine et que l'on mélange pour bien le faire fondre. On remet la viande, on remporte en ébullition. Et puis, on rajoute le muscat tout doucement en remuant au début pour bien diluer la farine. Hein, et surtout pas
de petits grumeaux. Petits grains de farine.
Voilà. On ajoute de l'eau pour finir de couvrir la viande, sel, poivre. Et comme je disais tout à l'heure, on amène à ébullition et on laisse mijoter 2 heures.
Donc bon, c'est pas forcément un plat qu'on va faire rapidement. Donc
non,
tu sais,
mais la cuisine n'est jamais rapide.
Voilà. Donc 2 heures, donc on peut s'y prendre ce matin. Il est encore temps de le faire. Et puis tranquille, voilà. On
met et c'est un plat, comme tous les plats en sauce, plus il est réchauffé, meilleur il est. Donc moi, ce que je propose, c'est de le faire toujours la veille.
Et de le réchauffer
le lendemain pour le servir. Et on peut accompagner donc ce plat de pommes de terre rissolées à la graisse d'oie ou de canard. Pommes de terre du pays de Sceaux s'entend bien. Et dans les pommes de terre, je pense que la Mona Lisa est une des pommes de terre qui correspond tout à fait à ce genre de plat.
Quelque chose d'assez ferme dans la mesure où, comme on l'a fait rissoler, il ne faut pas non plus qu'elle se partage et qu'elle finisse.
Il y a une petite recette que je vais vite donner, une petite astuce.
Ça m'intéresse.
La pomme de terre est une éponge. Lorsqu'on plonge une pomme de terre dans de l'huile ou de la graisse, elle aspire toute la graisse, tous les corps gras. Alors quand on parle de frites, on dit souvent c'est que la frite. Alors, pour empêcher cela, mais c'est très facile, il suffit de faire cuire les pommes de terre dans sa robe des champs avec une poignée de sel. Et lorsqu'elles sont chaudes, on les pèle, on les coupe en 4 ou en 6, le morceau que l'on veut. Et dans une poêle bien remplie de graisse d'oie ou de canard, on fait rissoler les pommes de terre. La pomme de terre,
elle aura déjà absorbé l'eau.
L'eau essaie de sortir de la pomme de terre et la graisse se caramélise autour de la pomme de terre. On a toute la partie gustative de la pomme de terre dans la bouche. On a le croustillant de la friture de la graisse de canard. C'est quelque chose de délicieux. Et quand la pomme de terre est bonne, la pomme de terre est aussi bonne que le morceau de viande.
Bien. Alors, en parlant de cuisson, tu viens de dire, on va d'abord la faire cuire en robe des champs. Donc en robe des champs, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est
avec sa peau.
C'est bien mignon, je trouve. Cuire, ça veut dire combien? Il faut qu'elle soit comment quand elle est cuite?
Mais quand on plante le couteau, il ne faut pas qu'il résiste. Voilà.
D'accord.
Si on les met à l'eau froide, on démarre à l'eau froide. Quand c'est en ébullition, on va compter 3 quarts d'heure. À peu près. Voilà,
au moins on sait. Et après, forcément, si on l'a fait de
voilà. rissoler... Là, très important, il faut l'appeler chaude. Hein, et il faut la faire frire chaude. Il ne faut pas laisser la pomme de terre se refroidir pour ne pas qu'elle durcisse.
Moi, j'entendais les 2 sons de cloche à chaque fois. Et bon, je me disais, Manco, finalement, comment tu fais? Je m'en suis longtemps passé parce que c'était ou frite ou bouillie, finalement. Voilà. Donc,
La pomme de terre, quand on fait un pot-au-feu, on met la pomme de terre crue dans le pot-au-feu. Oui. Il cuit avec le jus du pot-au-feu. Quand on fait un ragoût, la pomme de terre cuit avec le bouillon du ragoût d'agneau, de porc, de volaille, ce qu'on veut lui donner. Par contre, quand on veut avoir une pomme de terre rissolée, voilà une des recettes qui fait que la pomme de terre n'est pas indigeste et très gustative, n'est pas gorgée. La pomme de terre est une éponge, elle pompe tout ce qu'on lui donne.
Mais en premier, et puis après, une fois qu'elle a pompé, voilà, on ne prend plus rien d'autre.
Voilà.
Bon, ben au moins maintenant, c'est clair, je le sais et je suis bien contente. Je ne dis pas que je vais en faire profiter tout de suite là maintenant la famille, hein. Encore que ce soir...
Encore que, pourquoi
voilà.
pas.
Non, mais encore que ce soir, le menu n'est pas tout à fait défini. Donc on peut faire des expériences, mais ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour faire des expériences, surtout en matière de réveillon. Donc, est-ce que c'est un plat qu'on peut tout à fait servir en réveillon, comme tu le rappelais tout à l'heure?
Tout à fait.
C'est relatif. Dans la mesure où on a un chouette goût, où on a des produits du terroir qui font partie du circuit des auberges gourmandes en pays Qatar, pourquoi pas? Après tout, c'est vrai.
Tout à fait. Et puis la pintade hein, est une des volailles du pays Qatar. Donc, nous avons des produits qui sont fabuleux sur le département de l'Aude. Autant les mettre en avant. Et puis, les utiliser. Toutes ces recettes que l'on vous livre tous les vendredis sont des recettes que vous pouvez trouver dans l'ensemble des auberges qui se sont spécifiées sur telle ou telle recette, mais également au profit de tous les ménages, puisque toutes ces recettes sont pour 4 ou 6 personnes.
Et réalisables. Dans sa cuisine.
Tout à fait.
Dans la mesure où on a les bons ingrédients. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être ébloui par une carte dont les termes ne nous sont pas forcément familiers pour se régaler. Et donc, on a envie aussi de retrouver le vrai goût et d'associer ce qu'on lit à ce qu'on mange et d'être bien sûr de savoir ce qu'on a dans l'assiette. Ça peut être joli. Mais si ça ne nous parle pas, je doute qu'au niveau du goût, ça suive. Donc, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à se dire, bon, c'est peut-être pas pour moi. Je suis pas
Mais
assez,
je vais reprendre une phrase d'André Daguin, qui, sur une émission d'une radio parallèle à Radio Marseillette, donc je crois que c'est sur France Inter, parlait de la cuisine. Et donc, André Daguin avait un père qui était cuisinier, il a un fils qui est cuisinier. Et il disait que 95% des personnes qui cuisinent en France sont des ménagères, sont des dames. La cuisine, c'est leur vocation première. Et il n'y a plus que 5% qui sont les chefs et qui sont des hommes. Donc, aujourd'hui, toute personne qui a envie de cuisiner peut se régaler.
Voilà,
nous avons tout ce qu'il faut dans notre département pour permettre de créer une jolie et une bonne table.
Bah, c'est le cas, déjà rien que cette recette-là, bon, on imagine tout à fait pouvoir la réaliser et aussi la déguster dans le circuit des auberges. On avait parlé tout à l'heure d'un chapon. Donc
voilà.
Alors, prendre un menu vraiment un petit peu plus dans la tradition des fêtes, hein, puisque bon, c'est un peu la volaille un peu star, on va dire.
Voilà.
La pauvre bête. Non, je plaisante.
Non,
elles sont élevées pour être mangées.
Voilà, le chapon ou la poularde. Parce que là aussi, ce sont des volailles qui sont sexées, hein, on les a châtrées, comme on dit, et donc on a ou le chapon qui est le coq qui est très gros, voilà. Et puis si l'on veut une bête beaucoup plus petite parce que on n'est que 4 ou 6,
ce sera la poularde,
hein, voilà. Donc
petite musique de Noël,
voilà, petite musique de Noël là, qui nous accompagne. Alors un chapon, on va dire qu'un gros chapon de plus de 3 kilos, ce sera pour 10 personnes. Hein? Et une poularde donc de 2,5 kg, 3 kilos, sera pour 4 ou 5 personnes.
Ouais, voilà, on va 6 dire
personnes.
6 max.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? À peu près 300 grammes de volaille par personne. Hein? Voilà, donc après, on a vite fait
le calcul.
Voilà.
La règle de 3.
Voilà. 800 grammes de cèpe frais, 2 boîtes ou surgelées. Hein, puisque bon, quand on arrive à Noël, le cèpe, on ne peut pas le cueillir, hein,
oui,
il n'y en a pas trop.
Mais
par contre, il y en a eu un petit peu à l'automne, donc tout le monde est allé ramasser ces cèpes, les a mis au congélateur, en attendant le moment de les utiliser.
À ce sujet, chef, le cèpe en conserve ou surgelé?
Ah, pour moi, je pense que surgelé est bien mieux qu'en conserve, parce qu'en conserve, il est déjà précuit. Alors, une petite astuce pour les ménagères, vous avez tous votre époux, compagnon, frère, père, qui va à la cueillette des champignons. Surtout ne pas laver le cèpe, le brosser tout simplement, enlever tous les ingrédients un peu de la forêt, la carrière de la forêt, la mousse, la terre, voilà. Juste les faire revenir à la poêle. Juste les faire revenir. Mais ce qui s'appelle revenir, c'est quelques minutes de cuisson.
Dans une matière spéciale ou
Non, à sec, voilà. Et faire rejeter un petit peu l'eau du champignon. Et le congeler à plat sur plaque. Alors, pourquoi à plat sur plaque? Eh bien, parce qu'après, quand il sera congelé, vous allez le décoller de la plaque et le mettre en sachet. Et vous pourrez prendre le nombre de morceaux que vous avez besoin. Hein? Donc, on découpe le cèpe. On y fait cracher son premier jus. Et on le congèle à plat. Et puis, on le met donc dans un sachet ou dans une boîte au congélateur pour pouvoir prendre à mesure ce qu'on a besoin pour cuisiner.
Donc, il est préférable de le surgeler.
Voilà.
Ça aussi, c'est une astuce.
Du marron. Alors, on va prendre des marrons. On va prendre 2 kilos de marrons à peu près. Alors, on peut prendre des marrons si on en a encore, hein, des marrons frais. Sinon, on prend des marrons en boîte. Voilà. 2 kilos de marrons.
Marron châtaigne.
Ou châtaigne, voilà. Marron châtaigne. 1 kilo de pommes de terre du Pays de Sceaux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si possible, la Mona Lisa. 2 poivrons rouges. Ah. 1 vert. 1 jaune.
Alors, on va jouer dans la couleur, là.
Voilà,
on joue pour le plaisir des yeux.
Ouais. Une aubergine, 3 petites courgettes, 2 oignons de Citou, 1 verre de farine, 1 verre d'huile de pépins de raisin et 1 verre d'huile d'olive.
Ça ressemble à la ratatouille, cette histoire. Améliorée.
Si l'on veut. 500 grammes de graisse de canard, sel, poivre. Alors là, soit du muscat de gruissant, qui sera moins liquoreux que celui de Cascastel.
Moins sucré.
Voilà, il faudra à peu près 2 bouteilles environ.
Ça va.
Voilà.
Nicole dit ça va, allez.
Alors maintenant, on va passer à la préparation.
Oui.
Donc, on a une préparation d'une grosse demi-heure, on va dire 42 minutes.
Mais là encore, on peut. L'idéal serait de peut-être le faire la veille.
Oui. Non, mais ça peut se faire la veille aussi, mais le temps de préparation, c'est à peu près ça. On a 1h3 pour pas dire 2h.
De cuisson
environ. Alors, comment on procède? Eh bien, comme pour toutes les volailles que l'on va faire, qu'on va cuisiner, on va découper le chapon ou la poularde en morceaux, prévoir 2 à 3 morceaux par personne, donc vous avez la grosseur des morceaux. Dans une cocotte, faire revenir la viande dans l'huile chaude, dans l'huile de pépins de raisin, et graisse de volaille mélangée. On va fariner les morceaux, on verse le muscat de gruissant jusqu'à hauteur de la viande, sel, poivre, et on fait cuire 1 heure.
Déjà, on fait cuire la viande, d'un côté.
On retire et réserve les morceaux. Dans une cocotte, on ajoute les cèpes, qu'on fait revenir, une boîte de marron. Alors donc, la boîte de marron, il faut qu'elle soit cuite. Hein? Donc si on doit faire cuire les marrons, on les fait cuire
à part.
Hein? On les pèle et on les fait cuire, donc on les fait bouillir, on fait cuire les marrons. On laisse cuire 20 minutes. On rajoute les morceaux de viande à nouveau et on les continue à les faire cuire 20 minutes en remuant doucement pour ne pas séparer la viande de ses os. Hein? Donc on remue délicatement. Et puis, ce que tu me disais tout à l'heure, ça ressemble à de la ratatouille, mais en fait, c'est préparer les légumes qui vont accompagner cette viande. Ce qu'on appelle les légumes bohémiens.
Ah, c'est ça, j'en avais entendu parler de cette expression, les légumes bohémiens.
Les légumes bohémiens.
D'accord.
Donc, on coupe les morceaux de courgettes, d'aubergines, de poivrons, et on les fait revenir dans un verre d'huile d'olive. Quand ils sont bien revenus, on les met dans une plaque et on les met au four à 160 degrés.
Ah, donc c'est pas forcément ce que je disais au départ. Effectivement, c'est pas forcément la ratatouille.
À peu près 1 heure.
Ils vont être plutôt, j'allais dire...
Ah, ils sont en morceaux.
Voilà, ils sont en morceaux plutôt qu'en compoté comme dans la ratatouille. Bien.
On rajoute la deuxième boîte de marrons Et on fait cuire 10 minutes supplémentaires. Deuxième boîte de marrons dans le...
Dans la première, enfin, avec les cèpes, les, voilà. les marrons en premier et la viande.
Puis, on va faire bouillir les pommes de terre. Donc, la fameuse recette des pommes de terre rissolées à la graisse de canard.
Donc, en robe des champs, on les fait démarrer à l'eau froide et on peut compter 3 quarts d'heure en sachant...
3 quarts d'heure quand elle boue.
Quand elle boue, donc à partir de l'ébullition, en sachant qu'en plantant...
Voilà. On pique avec le couteau voilà. et
si ça résiste pas, on pèle. Cuit. On pèle la patate chaude.
Voilà, on la coupe en quatre et on la fait rissoler dans la graisse de canard, salée et poivrée, et on sert le tout bien chaud.
Ben voilà, tout simple. Enfin, voilà. C'est finalement tout simple, quoi.
Voilà.
C'est et l'avantage de ce plat, c'est que s'il est fait pour le réveillon, et si on n'a pas tout consommé, on peut toujours, en dehors des pommes de terre, qu'il faut faire au moins, oui. messieurs, voilà. le resservir le lendemain.
C'est une chouette idée, parce que la plupart du temps, on a des restes, on est toujours un petit peu, on a les yeux plus gros que le ventre, on a peur de manquer, on ne voudrait pas faire manquer aux convives non plus, n'empêche que le lendemain, on est seul, enfin seul, on se retrouve avec l'effectif normal, et du coup, on se dit, tiens, ben chouette, je suis un peu fatiguée, j'ai qu'à faire chauffer, réchauffer tout ça, ou remijoter tout ça, quelques pommes de terre, et c'est reparti.
Voilà, mais il faut accompagner ça d'un bon vin quand même.
Voilà, c'est ce qui nous
Alors, mon petit coup de cœur sera d'accompagner... aussi bien la pintade au muscat que le chapon au cèpe et au marron avec un bon corbière.
Ben voilà, on y est.
Et si l'on veut un corbière, un vrai corbière, j'allais dire ancestral, c'est un corbière du Val de Dagne, de chez Roger Carbonneau.
Je ne connais pas.
Tu ne connais pas le Val de Dagne.
Je ne connais pas le Val de Dagne. On m'en parle. Évidemment, Roger Carbonneau, forcément, au domaine de Villemagne.
Voilà, sur la route de la Grâce. Le meilleur accueil vous sera réservé. C'est un personnage fabuleux, un vigneron émérite, qui plante sa vigne avec une baramine en pleine corbière. C'est pour vous dire que les vins qui sont issus de son vin...
Il s'accroche.
Voilà, les raisins qui sont issus de sa vigne et qui font cet excellent vin... à tout le soleil du Val de Dagne. Donc, moi, je propose un bon corbière qui a été un peu vieilli en chêne pour le chapon et un corbière grenache et carignan pour la pintade au muscat.
À consommer avec modération, bien entendu. Voilà, mais à consommer tout de même. Voilà, parce que le vin, ça se consomme, c'est tout. Bien. Eh bien, déjà, moi, j'allais dire j'ai plus faim, mais si, ça va vraiment ouvrir l'appétit. Les cafés de ce matin sont loin. on a parlé, donc ça fait maintenant quelques semaines que Jean-Paul et donc tous les chefs nous accompagnent ce tour pour faire ce petit tour des auberges gourmandes et rurales en pays d'Aude. Aujourd'hui, on avait envie de revenir et de revenir un petit peu sur ce concept, donc à savoir... un plat, un produit, une saison.
Voilà. Donc, nous avons mis en place tout un circuit de recherche et de travail avec nos collègues et amis, les artisans bouchers, nos collègues et amis, les producteurs, pour élaborer tout un circuit qu'on a appelé « Des couleurs de l'automne aux féries de l'hiver ». Pour en ce moment,
oui.
ou bien alors du réveil de la nature au chant des cigales. Voilà. Et là, tout le calendrier saisonnal est mis en place. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut faire du bon qu'avec du très bon.
Ah oui.
Et si on veut du très bon, il ne faut pas dessaisonner.
Non.
Chaque saison a ses produits.
C'est bon pour le palais, c'est bon pour le corps finalement. C'est des repères, ça fait partie des repères aussi. Il ne faut pas non plus déboussoler son palais.
Ça n'a plus autant d'attrait quand on mange la même chose.
Non.
Ce qui fait justement son attrait, c'est de l'avoir au moment.
Tout à fait. Ouais. On parlait tout à l'heure de surgélation. C'est tout à fait normal qu'en fin d'automne, pour un plat d'hiver, on soit amené à surgeler. La surgélation, ce n'est pas non plus quelque chose pour être consommé 3 ans après. De toute façon, la surgélation, c'est qu'une technique de conservation, mais à court terme. Le but du jeu, ce n'est pas de garder ça au fond du congélateur et se dire, ah ben tiens, qu'est-ce que je fais ce soir? On est fin juillet. Ah, je décèpe. Non, enfin, ça ne me paraît pas logique. Pourtant, bon, malheureusement, c'est des habitudes de consommation qui font qu'on ne regarde plus forcément ce qu'on mange, en fait. C'est ça. Et ça n'a plus le même goût. Donc là, on reste vraiment, on se tient à ce que la nature nous enseigne, c'est-à-dire, c'est le moment ou ce n'est pas le moment.
Tout à fait. Alors là, donc, notre département de l'Aude, très connu par sa cité de Carcassonne, son canal du Midi, vient aujourd'hui, et les châteaux du pays Qatar, par justement les produits du pays Qatar, être mis à l'honneur, puisque dans le concours national Prosper Montagnier, la viande qui va être servie et qui va être travaillée pour ce concours n'est autre que le porc du pays Qatar.
Rien que ça. Là, on est content.
Voilà, l'Aude monte à Paris.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. À la capitale.
Voilà, et donc c'est le cochon qui va servir de base, le porc du pays Qatar, qui va servir de base de la recette qui va être mise en place. Et je pense que, avec une petite indiscrétion, cette recette-là, nous pourrons en parler sur Radio Marseillette, celle du chef qui remportera le concours, c'est autour du carré de porc. Voilà. Donc déjà, ce que nous savons, c'est que déjà plusieurs porcs, par le biais de la CAMBA, qui est la coopérative des bouchers et charcutiers qui travaillent en étroite collaboration avec Atheris, qui est l'ancien Eau-de-Cop, qui sont les producteurs du pays Qatar, donc dont le président n'est autre que M. Fumet, de la Montagne Noire. Donc, ils sont partis déjà sur Paris pour permettre aux candidats de se faire la main et déjà de travailler pour ce concours. Mais je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ce concours Prosper Montagnier qui était en Carcassonne. Vous voyez, on a Prosper qui est à Paris, avec le concours, et il amène ses produits, dont notamment le porc du pays Qatar. Alors, qu'est-ce que c'est le porc du pays Qatar? Le porc du pays Qatar est un porc qui est élevé de façon naturelle, 100% produits végétaux de notre département. Un porc qui est semi-lourd. Il doit faire dans les 150 kg vifs, c'est-à-dire 90 kg de carcasse. Qui a une viande à maturité avec minimum 7 mois. Le minimum, c'est pas le cochon de lait, c'est pas le petit cochon. C'est une viande qui a du goût, qui tient bien. Voilà ce qu'est le porc du pays Qatar. Et là, nous avons toute une liste de bouchers, mesdames les ménagères, qui distribue ce porc du pays Qatar, dont vous pourrez venir les consulter donc, sur le site internet de Radio Marseillette. Vous aurez la liste de ces bouchers qui le distribuent. Et pour nous, les professionnels, nous avons deux adresses. Donc nous avons la CAMBA, Carcassonne, la coopérative des bouchers et charcutiers, ou bien l'abattoir de Castelnaudary, par l'intermédiaire de Patrick Rochette, qui est son directeur, donc pourra vous donner ou enfin, vous vendre les morceaux de porc dont vous aurez besoin.
Est-ce que c'est une viande qu'on peut aussi conserver, le porc?
C'est une viande charcutière. On est en pleine période où l'on peut conserver le porc.
Non, mais je veux dire en matière de cuisson que de consommation charcutière. Est-ce qu'on peut congeler, se faire débiter
Chez le particulier, le porc se congèle très bien. Hein, donc, aucun problème. Vous pouvez vous faire découper le morceau de porc, le mettre au congélateur et le retirer à mesure que vous en avez besoin.
Parce que bien souvent, c'est le problème qu'on rencontre, puisque bon, ça arrive de vouloir en conserver. Sauf que c'est quand même, bon, on se dit, je vais acheter un demi-cochon ou je vais acheter un cochon entier, parce que des fois, c'est l'occasion, j'ai le producteur pas loin, ou même, je dis entre guillemets, mais c'est vraiment occasionnel à l'occasion des lotos, ça arrive de gagner un demi-cochon.
Voilà.
Et bon, après, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se découpe? Comment ça se congèle, etc.? Rien de mieux que le producteur ou le détaillant pour vous indiquer et éventuellement vous le faire et vous donner
ça, tous les conseils. Ça, je pense que le cochon est une viande quand même qui est facile à travailler, à découper. Hein, il faut suivre uniquement toute l'ossature du cochon et enlever les pièces dans le sens de la viande, ne pas recouper la viande dans le mauvais sens. Mais bon, je pense que nos amis les bouchers se feront un plaisir.
C'est un peu là où je voulais en venir.
De vous le découper. Et de vous le...
C'est aussi le plaisir de confier des professionnels le travail.
Mais pourquoi ne vous lanceriez-vous pas aussi, mesdames les ménagères, un petit peu de charcuterie?
Ben on en, je crois qu'on y vient parce que bon, on en parle tous les jours, on en entend parler, c'est la crise, etc. Donc peut-être on revient justement par ce biais-là. Après tout, pourquoi pas? C'est là, il paraît qu'on a les meilleures idées de, je vais pas dire de survie non plus, mais enfin bon, se dit voilà, ben peut-être j'ai envie maintenant de faire mes conserves parce qu'après tout, bon, ben voilà, ça, des fois ça pêche un petit peu, je sais pas trop quoi cuisiner, mes conserves ou mes sachets de surgélation. Donc j'aimerais savoir comment découper, comment conserver. Donc c'est
pour faire un peu de charcuterie, il faut un petit peu de matériel. Voilà. Mais vous, si vous vous lancez là-dedans, vous avez des possibilités soit de faire découper et semi-préparer par soit les leveurs, soit les bouchers prêts à cuire, ou bien alors tout simplement acheter son petit broyeur à main que l'on peut retrouver.
Ça fait partie aussi des. Facile, on le voit dans les rayons des appareils ménagers, il y a de plus en plus de matériel, je veux dire semi-pro, mais qui ressemble les trancheuses, les broyeurs, les robots, même les contenants. On voit de plus en plus de bassines, ou de. Comment on appelle ça? On a un trépied, une bouteille de gaz, et puis pour faire les conserves.
Les rondeaux.
Merci, voilà. Donc on se dit, tiens, ça finit par rentrer presque dans nos habitudes de consommation. Donc bon, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. En même temps, on se dit, c'est un petit peu parce que la crise est là, mais je trouve que c'est chouette parce que ça nous fait revenir dans nos cuisines. Exactement. Et puis nous rappeler finalement que c'est pas si loin qu'on voyait mamie ou maman faire.
La fête du cochon. Voilà, la fête du cochon. Qui n'a pas souvenir chez ses parents ou ses grands-parents?
C'était vraiment une
d'avoir
fête.
Fait la fête du cochon. La fête du cochon, eh bien, c'était tout simplement un cochon qui était élevé à la ferme toute l'année, et que c'était des cochons qui étaient lourds quand même, des cochons qui venaient facilement autour des 200 kilos. Et donc, cette fête du cochon était vraiment la fête qui permettait aux amis de se retrouver en une journée pour préparer le cochon que l'on consommerait toute l'année.
Voilà, donc ça part de l'abattage jusqu'à la confection de tout ce qu'on pouvait tirer du cochon. On le dit dans le cochon, tout est bon. On va s'arrêter deux petites minutes pour laisser la place à nos amis les publicitaires, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'était finalement... C'est rapide, j'étais en train de parcourir les recettes, et il y en a une qui me fait de l'œil, parce que je suis une fille et que je suis gourmande, je voyais les pommes au four aux amandes au miel, mais Jean-Paul, puisqu'on était dans le cochon, on va s'y attarder un petit peu, puisque je vois une recette qui fait partie de la saison dans laquelle on est là, puisqu'on est en plein dans les couleurs de l'automne aux féeries de l'hiver. On voulait parler de la fricassée de cochon.
Voilà. Alors, donc, on parlait tout d'abord de la fête du cochon. Oui, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui. La fête du cochon permettait d'avoir, à l'époque, ça se tuait à la ferme. On n'amenait pas le cochon à l'abattoir. Donc, on va revenir un petit peu quelques années en arrière. Et là, tous les amis ou les parents se retrouvaient déjà le matin pour permettre à Sa Majesté le porc de passer de vie à trépas. Voilà. C'était le côté le plus désagréable, si l'on veut, humainement, de cette fête. Et puis, donc, le seigneur qu'on appelait, celui qui tuait le cochon et qui était le boucher du coin, quoi, donc, pelait le cochon, le vider, l'enlever de ses boyaux et retirer des morceaux de viande qui allaient permettre de confectionner le repas de fête qui va réunir l'ensemble des amis qui avaient donné le petit coup de main et puis ceux dont on avait envie
de partager le plat.
Et ce plat, on appelait ça la fricassée ou le friginate, suivant les régions dans lesquelles on se trouvait. Et notre département, partagé par le fleuve Aude, permettait du côté nord de faire un plat qu'on appelait le friginate, qui n'a rien à voir avec la recette de la fricassée. C'était un plat qui était beaucoup plus aillé, qui se mangeait avec des pommes de terre et qui était coupé en morceaux un petit peu plus gros. Je n'ai pas sous les yeux, pour pouvoir vous le dicter, la recette du friginate, mais on y reviendra.
Entendu.
Par contre, nous avons ce plat qu'on appelle la fricassée de Limoux. Alors pourquoi de Limoux? Parce que dans la région de Limoux, dans la haute vallée de l'Aude, ce plat, aujourd'hui, grâce à certains professionnels comme Meric, comme Vaquier, et j'en profite pour saluer mon ami Jean Vaquier, ancien président de la Chambre des métiers, qui veut donner à ce plat, tout comme cassoulet, l'importance qu'elle mérite. Donc ce plat était ce qu'on appelait donc la fricassée. Les morceaux qui servaient à faire ce plat étaient issus d'un morceau un peu sanguinolent, on disait autour du couteau, et de l'osseline. Donc aujourd'hui, on fait de la fricassée avec de l'épaule, avec de l'échine. À l'époque, on prenait l'osseline. Les abats, un peu de foie, dont la rate, les rognons, et le jambon de l'année précédente. Et avec tous ces produits, on faisait la fricassée. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la fricassée? Eh bien, on a besoin de 200 grammes de foie de porc, 2 kilos de viande de porc, donc, si possible, une viande assez souple, et donc on pourra prendre de l'échine, qui est encore meilleure que de l'épaule.
Un petit peu moins sec que ce voilà. qu'on trouve dans l'épaule.
Voilà, donc un rognon de porc, 150 grammes de jambon de pays, si possible le jambon du pays Qatar, 2 oignons de Situ, 4 ou 5 grains d'ail, une cuillerée à soupe de tomates, ou pas.
Ça, c'est, ou pas. Voilà, c'est
voilà.
selon.
Hein, ou pas. Voilà. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Farine, sel, poivre, thym, laurier et huile d'olive.
Thym, laurier, on peut imaginer que c'est le bouquet garni, donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va ajouter, c'est un qui va rester dans le plat, mais qui va plutôt donner du goût.
Voilà, tout à fait.
Donc on ficelle.
Alors, on coupe la viande en petits morceaux, des morceaux d'un centimètre et demi. On les fait revenir dans l'huile. On enlève les morceaux de viande du contenant, du chaudron ou de la marmite. Dans cette même marmite, faire revenir l'oignon coupé très fin, y ajouter le jambon, puis l'ail mixé. Y mettre la viande et remuer pour bien mélanger. Quand tout est bien doré, ajouter ou pas le coulis de tomate, le vinaigre, en remuant. Saupoudrer d'une cuillère à soupe de farine, bien mélanger pour la faire fondre. Ajouter de l'eau en recouvrant bien la viande. On assaisonne sel, poivre, thym et laurier et amener en ébullition et laisser mijoter 2 heures minimum.
Voilà, minimum. Voilà.
2 heures minimum. Et ce plat, il est servi avec des haricots. Les lingots du pays Qatar, le fameux haricot de Casenodari. Alors, ces haricots, comment on le prépare? Eh bien, pour les haricots, il faut 400 grammes environ d'haricots. Donc, toujours, c'est pour 4-6 personnes. Hein, soit environ 60 grammes de haricots par personne. On a besoin de 300 grammes de jambon du pays Qatar. 300 grammes de couane fraîche. Des feuilles de laurier, des clous de girofle, du thym.
Ah, le clou de girofle, je ne l'aurais pas vu.
Dans les haricots.
Ah,
dans
ouais, haricot, je ne l'aurais pas vu. Ouais.
3 gousses d'ail, un oignon du pays Qatar, sel, poivre et de la graisse de canard.
Encore elle.
Alors, Mélina, tu parlais des clous de girofle. Oui. Mais les clous de girofle, c'est uniquement pour les piquer sur l'oignon.
Ah, d'accord. Non, mais je pensais au niveau du goût. Ça ne voilà. me serait pas venu à l'idée d'associer le laurier avec avec la girofle, c'est tout. Ce n'est pas de goût qui me... Mais c'est surprenant, non? Je ne demande qu'à être surprise. Mais tous les vendredis, je suis surprise, finalement.
Quand on fait les jarrets qu'on appelle jambonneau, gare, dans notre coin, il y a eu la feuille de laurier et le clou de girofle.
Bon, le clou, c'est dans l'oignon. Hein. Si voilà. vous tombez dessus...
Voilà.
Vous vous en rappellerez.
Faire tremper les haricots au moins 6 heures avant dans de l'eau froide. Piquer les oignons avec les clous de girofle.
C'est où ils sont, au moins.
Couper le jambon en gros morceaux. Faire mettre à cuire les oignons et les feuilles.
De laurier.
Voilà. Les gousses entières d'ail.
Les gousses pelées?
Non,
un chemise. Donc on avait la robe des champs pour la patate tout à l'heure. Et là, il y a une chemise. Pareil, ça revient voilà, même, c'est avec
voilà.
sa peau.
Voilà, tout à fait. Alors on le fait cuire dans l'eau froide. On fait cuire un quart d'heure. On fait un fond avec un fond brun. Donc fond brun, on peut faire un fond avec des os, on peut se le faire soi-même. Sinon, on achète du fond brun. Et là, on fait un petit fond. On fait revenir l'oignon avec des graines d'ail écrasées. Qu'on conserve, on garde quelques graines d'ail. Le thym, les couanes, la graisse de canard. Il faut à peu près 2 cuillères à soupe. le jambon, c'est les 100 grammes, on en a mis 200 grammes au préalable.
À la cuisse.
Et là, maintenant, pour faire le fond, on garde 100 grammes. Qu'on coupe en petits morceaux, dans un litre d'eau, qu'on porte en ébullition. Puis, on met les haricots dans le fond et on complète avec l'eau de cuisson. Et on fait cuire un quart d'heure de plus et on contrôle que le haricot soit bien cuit, mais pas trop cuit pour ne pas qu'il s'écrase.
Et qu'il se sépare de sa peau.
Voilà.
C'est jamais
et on sert donc ces haricots
avec la fricassée.
Avec la fricassée. Voilà.
Là encore.
Bon repas de fête. Voilà, un bon repas que l'on peut servir pendant toute la période d'hiver.
Donc, c'est finalement...
Donc, on est bien des couleurs de l'automne.
Aux féeries de l'hiver. Là, on est en plein, parce que ça y est, c'est l'hiver. Hein, donc, il peut neiger maintenant. Et d'ailleurs, on en a eu un petit épisode ce matin. Bon, c'est pas forcément...
La neige te fait vraiment peur, Mélina.
Oui.
Heureusement que tu n'habites pas dans les Pyrénées.
Peut-être que ce serait une bonne... on dit qu'il faut combattre le mal par le mal. Thérapie. Ce serait peut-être une bonne thérapie que d'être le nez plongé dans... Enfin, je veux dire, le nez dans la poudre. Mais bon, c'est pas le... On n'en est pas là encore.
Bon, et si on terminait par un petit dessert, ce repas de fête.
Justement, là, j'ai lorgné sur ces fameuses pommes au four, au miel et aux amandes. Là, j'en ai vraiment envie. Et j'aimerais bien savoir comment on fait. Encore une fois, il s'agit de plats. Les recettes qu'on vous donne sont vraiment abordables. Moi qui ne suis pas forcément un cordon bleu.
Il n'y a rien de plus facile que ça.
Ça me parle. Donc, dans la mesure où je comprends les termes, après, ça va.
Alors, il faut prendre une grosse pomme par personne.
Et donc là, on est sur place, puisqu'on peut facilement se servir des pommes de
l'étang de Marseillette. Tout à fait. Alors, on va les prendre... si possible, un peu à l'avance. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ah. On va prendre soit de la Chantecler ou de la Golden. Pomme du pays Qatar, bien sûr. Mais qu'on va prendre à l'avance et qu'on va enlever du frigo et qu'on va laisser flétrir un peu la peau pour qu'elle se distende, pour qu'en cuisson, elle n'éclate pas.
Ah, d'accord. Donc, elle perd un peu de son eau.
Voilà. Alors, on a la pomme que l'on conserve et que l'on veut manger. Voilà. Et puis après, la pomme est un fruit qui conserve très bien,
oui,
de façon naturelle. Donc, il faut... acquérir de la pomme et la laisser se mûrir toute seule dans une pièce.
À température ambiante. On la laisse tranquille.
Ça
là,
va parfumer la pièce de
plus,
façon fabuleuse.
Ça, c'est
voilà.
Vrai.
Et on garde donc ces pommes. On va prendre donc un grain de sucre par pomme. On va prendre deux cuillères à café de poudre d'amande. 6 noisettes de beurre, donc une par pomme également. Une cuillère à soupe de miel, 8 cuillères à café de fine de Languedoc.
Ah, alors.
Qu'est-ce qu'est la fine de Languedoc?
Oui,
voilà,
merci.
La fine de Languedoc est issue de la distillation des vins du Languedoc. Pas du Marc. On a le Marc, l'alcool de Marc, et on a l'alcool de fine. L'alcool de fine, qui avec ma passion languedocienne, je dirais que c'est le cognac de l'Aude.
Vendu, ça me convient.
Va,
à consommer avec modération, toujours. Mais à consommer.
Voilà, mais là, on le fait cuire.
Oui, non, voilà.
Pas de problème. Alors, on préchauffe le four à 180 degrés. On creuse et on épipine le cœur de la pomme. On pose les pommes dans un plat à four, allant au four, et dans un bol, on mélange la poudre d'amande avec le miel et le beurre, plus 2 cuillerées à café de fine du Languedoc. Et une cuillère à soupe d'eau. Voilà, donc on fait
un appareil.
Voilà.
Une farce. On pourrait dire une farce finalement, puisque ça va nous servir.
Justement, puisqu'on va farcir
les pommes
avec cette préparation. Et on ajoute en château le grain de sucre.
C'est ce qui va caraméliser. Enfin, ça va, à la cuisson, j'imagine que ça va un peu caraméliser.
On arrose le sucre avec une cuillère.
De fine.
Et on fait cuire entre 20 et 30 minutes à surveiller. Et croyez-moi,
ça termine
un excellent repas.
J'allais le dire. C'est celle qui m'a tapé à l'œil. Bon, je ne dis pas.
Quoi.
C'est vrai que c'est pas quand on annonce les recettes, qu'on les présente, évidemment, on tient compte des horaires de messieurs les chefs à leur fourneau. Donc, on présente une recette tôt dans la matinée. Quand c'est sucré, bon, c'est plutôt agréable. Quand c'est salé, on peut imaginer qu'à 9h du matin, on n'a pas forcément du salé en vue. Mais là, nous, les filles qui sommes gourmandes, moi, quand on me parle de pommes aux amandes et au miel avec un petit peu de fine, parce qu'il caille ce matin, ça me parle un petit peu plus. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait servir pour les fêtes. Hein. Enfin, moi, je vois bien ça.
Tout à fait.
C'est vraiment, c'est on.
Et on accompagnera cette pomme au four d'un petit verre de bulles rosées de Limoux.
Voilà. La boucle, la boucle est bouclée. Donc, on peut retrouver, là, je fais une petite aparté. Donc, toutes ces recettes, vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Marseillette ou bien sur le site des auberges rurales. Donc, si mes souvenirs sont bons, www.auberge-rural.com, tout simplement, je crois.
Tout à fait. Ou alors, sur les plaquettes que vous pouvez trouver chez nos amis les bouchers, ou chez les producteurs. Donc, la plaquette qui, du réveil de la nature au chant des cigales, ou des couleurs de l'automne aux féeries de l'hiver.
Donc, on a tous les plats avec les produits et les saisons correspondants. Et c'est vraiment quelque chose... Moi, je recommande cette façon de cuisiner, quand on peut bien sûr cuisiner, au moment où, enfin, j'allais dire, au moment où c'est le moment. Tout simplement parce que bon, là, on a... c'est là que c'est le meilleur. C'est là qu'on se régale, il me semble, de travailler les produits qui sont de saison, donc qui sont frais, avec un petit décalage, puisque entre l'hiver et l'automne et le printemps et l'été, ben, forcément, il y a quelques mois, donc on voilà. peut se permettre de déconserver ou de décongeler.
Lors de Pays Cathare, notre petite France
voilà.
est là pour vous satisfaire pleinement. Et vous trouverez dans cette plaquette la liste des auberges engagées dans la démarche.
Et des producteurs.
Et des producteurs et des bouchers. Vous avez là, c'est un document tout complet.
Bah nous, on s'en sert pour travailler, donc j'imagine que c'est, enfin, je veux dire, en plus, c'est une petite plaquette. On peut l'avoir sous la main, dans la cuisine, dans un tiroir. Hop, voilà, c'est vraiment.
Bible, hein.
Ah non, c'est pas. Et finalement, on n'a pas forcément besoin d'autre chose.
Tout à fait. Ouais. Vous avez le produit, vous avez les artisans, vous avez les commerçants qui sont les aubergistes.
Il vous reste plus qu'à faire.
Il n'y a plus qu'à faire.
Il n'y a plus qu'à, comme on dit.
Voilà. Et nous sommes avides de conseils. N'hésitez pas à téléphoner, nous vous conseillerons et nos amis les bouchers se font un plaisir de vous accompagner de leurs conseils pour réaliser ces plats.
On oublie parfois que non seulement ils connaissent les produits qu'ils travaillent, mais en plus ils savent aussi les transformer. Ils ne sont pas là que pour découper ou pour vous servir. Ils sont aussi là pour vous conseiller et la plupart du temps on se dit « Ah non mais on va les presser, on va les gêner, ils vont pas vouloir. » Pas du tout. Au contraire, je pense plutôt que c'est eux qui sont demandeurs. Ils n'hésitent pas à transmettre. Donc,
mais moi, je les vis souvent le samedi matin, puisque quand je vais chez mon ami Michel Rabat chercher les morceaux de viande dont j'ai besoin pour confectionner mes repas, on se retrouve souvent entre collègues, là, et bien aussi entre consommateurs. Et vous verriez les débats autour des morceaux et autour des recettes. C'est quelque chose de fabuleux.
Mais c'est ça aussi la cuisine, en fait. Quand on a le plaisir, quand on est petit, puisque c'est là qu'on apprend, j'allais dire qu'on pompe le plus facilement, ben c'est ça. C'est pas forcément de dire, ben moi j'aime bien manger ce que me fait maman ou mamie, c'est que moi aussi, je sais comment on fait. Donc, et justement, l'enfant pose des questions, pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi ça a tel goût, etc. Donc, la cuisine, elle donne envie de poser des questions, elle donne envie de savoir, elle donne envie d'apprendre. Ça fait partie, il me semble, d'un des métiers qui est le plus débattu, le plus partagé, que ce soit par ceux qui le font et par ceux qui la consomment. Enfin, moi, c'est ce qui me semble, c'est mon avis.
Alors, il y a un dicton que tout le monde a lu dans le temps, les bandes dessinées de Picsou et de Donald. Et Picsou disait... Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et Jean-Paul Escane, le président des auberges, dit le contraire. Il faut manger, il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre.
C'était la conclusion juste avant les infos. On se retrouve tout à l'heure, Jean-Paul, tu restes un petit peu avec nous.
Tout à l'heure.
Il faut remettre la cuisine dans l'emploi du temps. Voilà, j'avais envie de dire ça. L'année dernière, on disait il faut remettre le vin au centre de la table. Mais cette année, ce sera plutôt, on va remettre la cuisine au centre de la maison et de l'activité. C'est une activité comme une autre. On apprend, on partage, on transmet. Et finalement, tout le monde est content. Et après, du coup, on arrive au repas, on est détendu. On éteint la télé parce qu'elle n'est pas invitée, après tout. Hein, elle ne débarrasse pas la table, elle non plus. Donc, ça me fait bien plaisir. Jean-Paul, est-ce que tu vois une contradiction à émettre dans ce que je viens de dire ?
Contradiction à émettre, non, pas du tout. Au contraire, la télé, évidemment, c'est le plus mauvais ingrédient du repas.
J'allais le dire, voilà. Donc, ça se cuisine très mal.
Ça se cuisine très mal et surtout, c'est indigeste.
Voilà.
Donc, on éteint la télé, le repas est un moment que l'on partage en famille ou en ami, on n'a pas besoin de distraction extérieure.
Non, ça en est une.
Voilà.
Ça en est déjà une.
Donc,
voilà.
C'est un moment convivial.
Donc, en recentrant la cuisine sur le centre de la table, je ne peux que dire que tu as raison, mais avant, aller découvrir cette cuisine dans nos auberges rurales et gourmandes dans le Pays d'Aude.
À travers toute l'Aude. Je veux dire, on a une boucle, on avait la carte sous les yeux tout à l'heure.
Une vingtaine. Hein.
Voilà, c'est, on a
24. Voilà, nous avons donc 24 auberges sur tout le département de l'Aude. Alors, qu'est-ce que sont les auberges? Alors, dans une auberge, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre d'abord une ambiance familiale. Des auberges issues d'un charme rustique, proche souvent d'un site touristique, château ou abbaye.
C'est pour ça souvent que le vendredi,
d'un
on
musée
a aussi une recette
ou d'un site naturel.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on déguste? Une cuisine de tradition, selon les recettes locales, mais élaborée avec les produits du terroir. Marqué Pays Cathare. Je ne peux que le répéter encore une fois, on ne peut faire du bon qu'avec du très bon. Et si on n'a pas les produits de base, on ne pourra pas réaliser, malgré toute la science du chef. Et le tout doit être accompagné d'un bon vin du terroir, à consommer avec modération, sans tamis. Donc voilà ce que sont les auberges rurales et gourmandes en Pays d'Aude. Dans les auberges rurales et gourmandes, nous sommes tous complémentaires les uns avec les autres. Nous ne sommes jamais concurrents. Et nous mettons en place l'itinérance d'auberge en auberge. Et en plus de ça, on vous récompense. Puisqu'en ayant consommé dans 3 auberges, et avoir paragraphé votre visite à travers la plaquette, la 3e auberge se fera un plaisir de vous offrir une bonne bouteille de vin de son terroir que vous consommerez en toute sécurité chez vous, en ami.
Là, pas de modération.
Qu'est-ce que c'est que les saveurs du terroir? Je vais me permettre de vous lire un petit poème qui est issu de notre volonté, de notre science. Nous les avons composé ce poème lors des réunions de travail, car nous nous retrouvons une fois par mois, tous ensemble, dans une auberge, pour se découvrir, s'apprécier,
partager.
Et partager.
Et en plus, en poésie.
En poésie. C'est vrai que nous avons Joseph Delteil qui est à côté, qui est un de mes voisins, né dans le Val de Dagne, que tu connais pas, Mélina, mais il faudra que tu
il faudra que tu y ailles un jour.
Voilà, et donc enfin, tu te plonges dans le Val de Dagne, à 2 pas de ton berceau, il y avait celui de Joseph Delteil, un siècle avant.
Oui, oh, ben fait.
Voilà, hein. Puisqu'il faut savoir qu'il est né dans le qu'il est né au Villaranval, dans une métairie, avant d'aller sur la commune de Pièce, et puis avoir grandi, avoir fréquenter le lycée de Limoux et puis partir sur Paris où il a fait toute sa personnalité d'un grand qu'il est. Les saveurs du terroir. Au pays des Cathares, il est des sensations que vous éprouvez de façon conviviale. Au travers d'une histoire à l'accent médiéval, au sein de ces auberges de pure tradition. Ces auberges gourmandes d'authenticité, au parfum bien rural des senteurs d'aubépine, vous feront découvrir alors cette cuisine, évoquant un passé quelque peu mitigé. Les saveurs du terroir dans leurs plats mitonnés régaleront au mieux vos gourmandes papilles. L'enfant jadis, choyé au sein de sa famille, viendra vous rappeler ses instants oubliés. Les vents, marins et cerces aux multiples facettes, donnent à ce pays leurs meilleurs ingrédients. Dans ces auberges rurales du bon vieux temps, la joie et le bonheur sont aussi dans l'assiette. Voilà.
C'est un poème marqué Cathare.
Tout à fait.
On devrait le labelliser.
Tout à fait.
Merci pour ça.
Nous le proposerons à la prochaine commission de labellisation.
Voilà.
Pays Cathare Sud de France.
Je me porte garant.
Bon, voilà. Donc, je vais...
Peut-être des petits souhaits et vœux à exprimer au nom de l'association, puisque bon, on est en période, hein, les vœux, ça va commencer.
Mais les vœux, je vais d'abord présenter tous les vœux, les meilleurs, de santé, de bonheur, de réussite à tous mes confrères de l'association des auberges. et je vais les lister pour n'en oublier aucun. Alors, tout d'abord, à l'auberge de Pomérac, qui se trouve à Verzeille.
Et qu'on a reçu,
dernièrement. L'auberge du Dominicain à Montréal, qui également est venue dans nos locaux. L'auberge de la Luciole à Luc-sur-Orbieu.
Qu'on a reçu également.
Le Courtal des Vidal à Fitou. L'auberge Le Qatar à Belflou, dans la région de Castelnaudary. L'Arzenay à Arzens. L'auberge du Puy-Fleury, je ne vais pas y souhaiter les vœux. Hein,
ben, disons que voilà. C'est un juste retour à l'envoyeur.
Voilà. L'auberge de la Garrigue à Saint-Pierre. Le Côté Sud à Saint-Pierre également. Le Château Bonafous à Ville-Sec des Corbières. L'auberge de Peyre-Pertuse à Ruffiac des Corbières. La Table du Curé à Cucugnan. L'Écluse du Soleil à Sougraigne. L'auberge Cire de Cabaret à Roquefer. Le Relais de Prexan à Prexan. L'auberge La Closerie à Lecate. Au fil de l'eau à Marseillette. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. L'auberge Le Carignan à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. L'Orpin à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Le Petit Clos à Cascastel. Et l'auberge de la Batteuse à Duyac, sous Peyre-Pertuse.
On a fait le tour de l'Aude. Finalement.
Voilà.
On a
donc,
fait le tour de l'Aude.
Bonne et heureuse année à tous mes confrères. Bonne réussite. Et n'oubliez pas, chers amis aubergistes, que l'année 2011 va démarrer avec plein de projets et plein d'ambitions.
Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Nous, on s'associe, hein, Radio Marseillette. Au vœu que tu viens de prononcer, il faut que ça continue, il faut que ça fonctionne et que ça grandisse tout ça, parce que on a fait le tour de l'Aude, mais elle ne demande qu'à s'enrichir et qu'à s'agrandir, et pourquoi pas par le biais de l'association.
Donc j'en profite également pour souhaiter les vœux à nos partenaires institutionnels d'abord à notre président de la Chambre de commerce, Jean Kézergue. Et tous ces collaborateurs, on oublie toujours toutes les personnes qui travaillent autour des présidents des chambres consulaires, tous ces techniciens qui, sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, nous n'oublions surtout pas.
Non, les équipes.
Donc, je disais à monsieur Jean Kézergue, aux autres partenaires des chambres consulaires qui travaillent étroitement avec, dont monsieur Guigiva pour la Chambre d'agriculture, monsieur Balester pour la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne et de Lézignan, pour monsieur Sylvestre de la Chambre des métiers, mais également pour les institutionnels, disons départementaux, monsieur Marcel Martinez, qui est le président de la marque Pays Qatar au Conseil général, le directeur du CDT, Coste, le président des Gîtes de France, Yves Fabre, le président des sites du Pays Qatar, Hervé Baron, du président des sites naturels du Pays Qatar, M. Durand, et puis les présidents des filières, comme Michel Rabat, Christian Auriol, Philippe Mercier. Voilà toutes ces personnes avec qui nous travaillons étroitement ensemble et pour lesquelles l'Aude Pays Qatar, comme on dit souvent, quelle histoire.
Oui.
Moi je dis toujours, le Pays Qatar, il a déjà 20 ans. Et je dis, il commence tous les jours, tous les jours, tous les jours, on se remet en cause. Tous les jours, de nouveaux produits sont labellisés. Tous les jours, nous avons de nouvelles actions. Et c'est parce que c'est une marque collective, portée par tout le monde. Plus de 700 marqués Pays Qatar qui portent cette propre marque. Donc, le Pays Qatar, qui est l'enfant chéri de la marque Sud de France, chaque département ayant sa marque départementale, et Sud de France qui coiffe l'ensemble des qualitativement de ces marques Languedoc-Roussillon.
Mais c'est surtout que, j'allais dire, ça, l'effet boule de neige, puisqu'on est un petit peu dans la saison, fait aussi que certains producteurs qui jusqu'ici en étaient partenaires ou n'avaient pas le soutien d'associations telles que de Pays Qatar peuvent aussi de venir intéresser et de venir et souscrire, puisque bon, c'est quand même selon certains critères, mais se disent, bon, ben voilà, maintenant, moi, j'ai envie un petit peu d'avoir le soutien d'un label, le soutien d'une marque, hein, et donc essayer de s'inclure tout en respectant le cahier des charges. Donc, ça ne peut que grandir, puisque si l'impulsion de base est bonne, pourquoi pas? Maintenant, ce n'est pas non plus une raison pour avoir des fois on dit trop de monde tue le monde. Il ne faut pas non plus qu'on se sente un peu perdu dans une masse. Il faut rester, il faut savoir se démarquer et rester assez, j'allais pas dire unique.
Il faut d'abord se marquer et puis on se démarque par notre qualité.
Voilà.
Chaque auberge a son savoir-faire. Chaque auberge est totalement différente, tout en ayant un cahier des charges fédérateur.
C'est le fil rouge.
C'est le fil rouge, voilà. Qui doit nous guider et qui doit faire en sorte qu'on n'a pas le droit de se tromper. Et je lance un appel aussi à tous mes confrères qui font de la restauration dans le monde rural, dans l'arrière-pays, et qui n'ont pas aujourd'hui rejoint les auberges rurales parce que peut-être ils ne connaissaient pas cette démarche, mais que la porte leur est ouverte. Hein, et je vais donner un numéro de téléphone. C'est le 04 68 10 36 23 où Pachi Castagnier, notre technicien, se fera un plaisir de les accueillir et de leur présenter notre cahier des charges. Et moi-même, je viendrai les rencontrer. Voilà, vous pouvez me joindre également au 06 83 56 05 17. Voilà. Donc, je ne peux que vous dire bonne et heureuse année, bonne fête de fête d'année, travaillez beaucoup, que 2011 soit prospère pour tout le monde et que nous puissions engager plein de projets pour cette nouvelle année.
Merci Jean-Paul. En tout cas, on se retrouve l'an prochain.
Ben, on se retrouve l'an prochain.
Parce que là, nous, on va un petit peu fermer doucement la porte pour une petite semaine. Et on repart de plus belle à partir du vendredi. Ce sera le 7, le 8 vendredi.
Le non. 7, je pense, non
si lundi, on est le 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, encore une fois, Jean-Paul a raison. Vendredi 7, est-ce qu'on sait avec qui on passe à table?
Non, ce sera toujours la surprise parce que c'est en fonction de la disponibilité des gens. Donc, nous invitons à notre micro pour parler d'une nouvelle recette, d'un nouveau produit, d'un bon moment passé ensemble, une bonne distraction qui se situera avant ou après le repas. Et Mélina, Nicole, Gilles, le capitaine, qui n'est pas là aujourd'hui, il a déjà pris les vacances, le capitaine.
Oh, le pauvre,
il a rangé le bateau.
Oui, aussi au fond de son lit, je crois. Ah, hein. Voilà. Donc, on lui fait un petit coucou.
Voilà.
Et qu'il se rétablisse, on le revoit à la rentrée. Ben, nous, alors, ben voilà, ben justement, rendez-vous est pris pour le vendredi 7. De bonheur et de bonne humeur.
Tout à fait. Bonne année et bonne fête d'année à tout le monde.
Merci Jean-Paul également.
Également.
Nous, on se retrouve tout à l'heure pour l'agenda.